Louange et remerciements au Seigneur. Si nous devrions résumer en un titre ce que nous avons déjà entendu cet après-midi, alors il s'agirait de la fidélité, de l'obéissance et de la patience. Que ce soit le passage dans le livre aux Hébreux, que ce soit celui-ci ou aussi celui de Genèse, partout nous voyons que Dieu a béni. Peu importe comment et quand, lorsque les hommes se sont attachés à lui de tout cœur. Peut-être nous lisons le passage de Samuel qui parle de ce que nous avons entendu hier soir et ce matin au sujet du transport de l'Arche de l'Alliance. J'espère que c'était ce passage que le frère Branham avait en vue. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Puis il se leva et se mit en marche vers Baalé en Judée avec tout le peuple qui était avec lui pour y faire sortir l'arche de Dieu qui porte le nom de Dieu, l'Éternel des armées qui trône au-dessus des chérubins. On chargea l'arche de Dieu sur un nouveau chariot et on l'emporta ainsi hors de la maison d'Abinadab qui se trouvait sur la colline. Et Uzza et Asho, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et ils sortirent l'arche de la maison d'Abinadab qui était sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu pendant qu'Athio marchait devant l'arche. Mais David et tous les Israélites dansèrent devant l'Éternel en déployant toutes leurs forces et avec des cantiques accompagnés des cyprès et harpes, tambourins, clochettes, cymbales. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza saisit de la main l'arche de Dieu pour la retenir, car les bœufs étaient en train de tomber. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa là à cause de sa faute, de sorte qu'il mourut là près de l'arche de Dieu. David alors fut profondément attristé que l'Éternel ait porté un tel coup contre Uzza. C'est pourquoi on appela ce lieu Pérèth-Uzza jusqu'à ce jour. Verset 9. Mais David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, au point de s'écrier, « Comment l'arche de l'Éternel pourra-t-elle monter jusqu'à chez moi ?» Peut-être jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu, nous l'avons entendue et encore entendue, en particulier déjà hier soir, dans la prédication de Frère Branham, que David a fait quelque chose qui ne lui a pas été ordonné par Dieu. Une chose pour laquelle il n'avait pas reçu d'ordre de l'Éternel. Et nous voyons que c'est pourquoi une pleine bénédiction n'y était pas attachée. Son entreprise était bonne, selon la compréhension. C'était juste, mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas la manière par laquelle cela devait ou aurait dû se passer. Si nous le considérons par rapport à toutes les époques, et en particulier par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, alors nous pouvons nous poser la question. Que faisons-nous en ce temps? Cela n'a aucune importance pour nous si nous ne laissons pas une parole nous parler de telle sorte que nous puissions nous poser la question suivante. Comment Dieu voit notre action ou ce que nous faisons? Comment Dieu juge-t-il nos actions? Que dit-il de ce que nous faisons? Nous avons entendu ce que Dieu pensait de ce que David a fait. Et nous savons, les Écritures le disent, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme agréable à Dieu. Il était attaché à Dieu de tout cœur. Mais cela ne l'a pas empêché d'agir de son propre chef dans cette affaire sans attendre de voir de quelle manière Dieu allait réaliser ce projet ou ce qu'il voulait faire. Et je pense que moi et nous tous, nous nous posons la même question. Agissons-nous uniquement parce que nous voulons faire quelque chose ou avons-nous pu attendre patiemment jusqu'à ce que Dieu donne l'instruction de faire quelque chose? Nous avons écouté la comparaison de Frère Branham avec toutes les grandes campagnes de réveil et que les évangélistes mènent partout. Et nous savons avec quel effort, avec quel zèle, et on ne peut pas le nier, avec quel dévouement tout est fait. Et l'intitulé ou le titre de l'ensemble de ce qu'ils font pourrait être « Pour la gloire de Dieu seul ». Car nous entendons, du moins déclarer de leur bouche, que personne ne veut être ou recevoir la gloire, mais que tout doit être pour la gloire du Seigneur. Mais comment Dieu voit-il cela? Comment juge-t-il cela? Recevrons-nous là la bénédiction ou alors la mort s'en suivra? La mort viendra comme conséquence. Nous voyons ici que quelqu'un, c'était Uzza, qui a touché le chariot et l'arche. Et il est tombé mort, Dieu l'a puni. Nous pourrions dire que Dieu aurait dû punir David, n'est-ce pas vrai? Car David était responsable de toute cette affaire. Je pense maintenant au dénombrement. Qui fit faire le dénombrement? N'est-ce pas aussi David? Là aussi, David s'est laissé induire en erreur. Il a fait faire le dénombrement. Et quand Dieu a exécuté la punition, qui a été frappé? Le peuple. Le peuple qui y a pris part. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est la faute du peuple de Dieu si dans cette époque ou dans ce temps aussi, des choses sont faites qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si nous pouvons suivre cette pensée. Est-ce que quelqu'un aurait pu construire une université de 52 millions de dollars si le peuple de Dieu n'avait pas donné l'argent nécessaire, ne l'avait pas soutenu et n'avait pas tout fait? Un homme où personne ne peut faire quoi que ce soit s'il n'y a pas des personnes qui rendent tout cela possible. Et ainsi aussi pour David, pour ses hommes. Il n'aurait pu rien faire si le peuple n'avait pas été prêt à les suivre afin qu'ils puissent le faire. Mais nous, en ce temps, nous voulons ou nous avons reconnu une chose, que nous ne voulons pas suivre partout où quelque chose est fait, mais nous voulons suivre là où Dieu fait quelque chose. Pas là où l'on fait un nouveau chariot pour ensuite y poser l'arche de l'Alliance. Et vous savez très bien, et ce n'est pas une critique, mais juste une constatation des faits. Vous savez très bien comment la parole révélée de Dieu a apporté la mort dans ce temps, seulement parce qu'elle a été manipulée sans autorisation d'une manière qui n'était pas prévue par Dieu. C'est pourquoi elle a causé la mort de plusieurs. Mais de même manière, elle a apporté la vie et la plénitude à plusieurs. Amen. Et nous espérons que nous pouvons faire partie de ceux qui ne font rien de leur propre chef. Ce n'est pas dans mon cœur et pas dans ma volonté de faire quelque chose. Mais cela seul ne serait pas une excuse. Cela seul n'est pas une justification. Nous écoutons de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu et il avait la révélation que l'arche de l'Alliance devait revenir, qu'elle appartenait au peuple de Dieu et qu'avec le retour de l'Alliance, Dieu serait au milieu du peuple de l'Alliance, au milieu d'eux. Tout cela lui avait été révélé par l'Esprit de Dieu. Mais il a manqué une seule chose. Il aurait dû attendre pour savoir de quelle manière Dieu voulait le faire. Et il a fait et entrepris lui-même quelque chose au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse recevoir les instructions de Dieu sur comment et quand cela devait être fait. C'est pourquoi seulement la sincérité, tout le monde peut l'avoir. Je n'accuserai personne d'hypocrisie dans l'action ou l'agissement avec la parole, quelle que soit la communauté ou la communion à laquelle quelqu'un appartient. Quand ils vont au service divin, ils y vont pas pour faire semblant. Ils y vont parce qu'intérieurement, ils ont le désir et une envie d'entendre Dieu ou d'expérimenter Dieu, ou peut-être parce qu'ils se sentent coupables ou craignent la mort ou l'au-delà. Quoi qu'il en soit, mais de prime abord, on ne peut pas accuser des personnes d'hypocrisie, mais nous voyons bien que cela ne suffit pas. Mais il faut plutôt attendre, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de faire quelque chose. Et combien de fois se sont retrouvées des personnes qui étaient prêtes à faire quelque chose sans que Dieu ne leur ait donné l'ordre. L'arche de l'alliance du Seigneur a la loi de Dieu, les instructions, c'est le témoignage. Et je crois qu'on peut le lire dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, ici il est écrit à partir du verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia, deux coudées et demie de long, une coudée et demie de large et une coudée et demie de hauteur. Verset 11. Tu la couvriras d'or fin, à savoir à l'intérieur et à l'extérieur. Et au-dessus, tu y placeras une bordure d'or autour. Ensuite, tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les fixeras au bas des quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Verset 14. Ensuite, fabrique deux barres de bois d'acacia, recouvre-les d'or et ensuite insère ces barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, afin que l'on puisse transporter l'arche. Verset 15. Les barres devraient rester dans les anneaux de l'arche. Elles ne doivent pas en être retirées. Tu mettras ensuite l'arche. Tu mettras ensuite dans l'arche la loi que je te donnerai. Verset 17. Fais ensuite une plaque d'or fin servant de couvercle de deux coudées et demie de long et d'une coudée et demie de large. Tu feras en outre deux chérubins d'or travaillés en ouvrage battu, un aux deux extrémités du couvercle. Tu mettras un chérubin à l'extrémité d'un côté et l'autre chérubin à l'extrémité de l'autre côté, relié au couvercle en une pièce. Vous fixerez les chérubins aux deux extrémités du couvercle. Verset 20. Les chérubins auront des ailes déployées vers le haut de manière à couvrir, à recouvrir le couvercle par leurs ailes. Leurs visages seront tournés l'un vers l'autre et aussi vers le couvercle. Tu mettras ensuite le couvercle au-dessus de l'arche et tu mettras dans l'arche la loi que je te donnerai. C'est là alors que je me rencontrerai avec toi et du haut du couvercle, de l'espace entre les deux chérubins qui se tiennent sur l'arche de la loi, je te ferai connaître tout ce que j'ai ordonné aux Israélites par ton intermédiaire. Ici est l'une des plus importantes remarques et enseignements. Verset 22b. Entre les deux chérubins, du haut du couvercle, c'est là que je te parlerai moi-même, que je parlerai moi-même avec toi et je te dirai tout ce que j'ai à dire aux Israélites par toi. Ce n'était pas seulement une apparence, mais ici Dieu voulait, le Dieu vivant voulait se manifester comme vivant. Il voulait donner des instructions. Ici, il voulait parler. Ici, il voulait se révéler. Ici, il voulait faire savoir à son peuple ce qu'il devait faire. Et le peuple d'Israël le savait bien. Si l'arche de l'Alliance est au milieu d'eux, alors Dieu peut parler. Alors il peut leur donner des instructions. Alors il peut leur dire ce qu'il veut ou ce qu'il attend d'eux. Mais si l'arche de l'Alliance est retirée du milieu d'eux, les deux chérubins ne sont pas là. Alors le Seigneur Dieu ne parle plus. Et c'est pourquoi David s'efforçait de ramener l'arche de l'Alliance. Il désirait que Dieu parle. Il voulait que Dieu parle à nouveau à son peuple. Mais nous voyons qu'il n'a pas su attendre le temps. Et je pense là à un autre exemple. Et je crois avoir bien entendu, lorsque frère Branham a dit dans l'une des dernières prédications, la chose suivante. Tant que le peuple d'Israël était en Égypte, on les appelait simplement peuple d'Israël. Mais avec l'Exode, je crois que vous l'avez tous entendu, avec l'Exode, ils sont devenus l'assemblée du Dieu vivant. Vous l'avez tous entendu, bien sûr, bien sûr. Avec l'Exode, ils n'étaient plus simplement le peuple d'Israël dispersé et ainsi de suite, mais l'assemblée. Avec un service divin défini, avec des instructions obligatoires, avec ce que Dieu attendait d'eux. Dieu leur a donné tout ce qu'ils devaient savoir. Ils sont devenus l'assemblée de Dieu. Mais à partir du moment où Moïse est monté pour recevoir les instructions de Dieu, il s'est passé quelque chose en bas dans la vallée. Vous savez très bien, Aaron leur a fait un veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse revint avec les instructions de Dieu encore entre ses mains, avec les commandements que Dieu avait donnés, il a brisé les tables au pied de la montagne. Et puis il a détruit le veau d'or et il a tout réduit en cendres. Et il a tout, si je me souviens bien, il a tout répandu dans l'eau. C'est ça. Et on a fait boire les Israélites. Qu'est-ce que c'était? Aaron, un homme qui était proche de Moïse et de Dieu. Ou non, bien sûr, il était proche de Dieu. Il n'a pas attendu que Moïse revienne avec la décision claire de Dieu, comme nous le dirions aujourd'hui avec le « ainsi dit le Seigneur », avec ce que Dieu avait à dire, à prescrire, oui, ce que Dieu exigeait de son peuple. Et en un clin d'œil, il avait déjà pris les choses en main pour faire quelque chose, pour fabriquer soi-même quelque chose. Frères et sœurs, au fond, c'était déjà une indication que dès le début, où nous voyons l'Église de Dieu avec dans l'Ancien Testament, deux choses étaient agissantes. D'une part, Dieu, par la révélation de sa parole, comme il l'a fait connaître à ses serviteurs et prophètes pour donner des ordonnances obligatoires pour son Église. Et d'autre part, il y avait des hommes au milieu de l'Église qui, en un clin d'œil, ont pris l'initiative de faire eux-mêmes quelque chose. Et voici, la discorde était produite parmi le peuple de Dieu. Si nous avons lu l'histoire de l'Église, nous constaterons qu'à côté de l'œuvre de Dieu, dans toutes les époques, les hommes ont fait leur propre œuvre à côté. Bien sûr, sous un prétexte pieux, en disant que tout est spirituel. Mais maintenant, il s'agit de distinguer où est-ce que Dieu est à l'œuvre. Le peuple d'Israël aurait dû savoir que Moïse était confirmé comme l'homme de Dieu et que Dieu était descendu avec ou bien dans la colonne de nuée et de feu, afin de parler avec lui et lui donner les instructions. Mais il ne pouvait pas non plus attendre. Il disait, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. C'est ainsi qu'ils ont parlé. Nous ne savons pas ce qu'il en est advenu de Moïse. Fais-nous un veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron a écouté ce qu'ils ont dit. C'était un esprit d'idolâtrie dans le cœur de ceux qui avaient été sortis d'Égypte par la même puissance de Dieu lui-même. Il s'agit aujourd'hui de décider et de faire la différence. Où est l'Esprit de Dieu? Amen. L'Esprit de la révélation. Alors, celui-là peut attendre. Il ne dira pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer maintenant. Le prophète est parti. Alors, l'agitation parmi le peuple. Faisons quelque chose, peu importe quoi. Il n'en est pas question. Celui qui a l'esprit de la révélation, alors il peut attendre. Il peut prendre patience jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Et je crois que le Seigneur nous a accordé la grâce. Non pas que nous ayons fait ou nous voulions faire quelque chose, mais nous avons pu attendre jusqu'à ce qu'il fasse ou bien qu'il plaise au Seigneur lui-même de faire ce qu'il avait décidé de faire. Nous savons et nous l'avons entendu, il faut que ce soit le bon moment. Il faut que la mission ou l'ordre soit là. Il faut que l'instruction de Dieu soit là. Et nous devons prendre patience jusqu'à ce que cela plaise au Seigneur de faire quelque chose. Et aujourd'hui, vous pouvez parcourir tous les pays. Vous pouvez parcourir aussi notre pays. Et partout, on trouve des gens qui ne peuvent pas attendre, qui entreprennent des choses, qui font quelque chose. Et bien sûr, tout se réfère au prophète. Pourquoi pas? Mais cela ne légitime personne. Au contraire, celui qui porte vraiment l'esprit de la révélation de Dieu dans son cœur saura distinguer de quoi il s'agit. Il saura distinguer si quelqu'un fait quelque chose juste pour faire quelque chose ou si on le fait sur l'ordre du Seigneur. Ici, il n'est pas approprié de parler de nous-mêmes. Mais une chose est sûre, nous ne faisons pas seulement quelque chose, mais ce qui se fait maintenant, cela se fait sur l'ordre de Dieu. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai écrit la première brochure. Et à la fin, je l'ai déjà dit ici, je ne savais pas du tout comment on rédige une brochure. Je n'ai jamais aimé écrire. J'aurais préféré passer 3 heures à creuser ou à labourer le jardin plutôt que de rester assis pendant 3 heures à écrire. Et on écrit généralement avec des salutations cordiales et autre chose. Et on écrit toujours quelque part avec beaucoup d'égard ou autre chose. Et quand j'ai fini d'écrire, sans réfléchir, sans savoir, ma main a continué à écrire, agissant sur ordre de Dieu. Frère Franck, amen. Sans la moindre réflexion, sans la moindre hésitation, ce n'était pas un hasard. Si Dieu n'avait pas donné l'ordre, je ne l'aurais jamais écrit et j'en aurais honte aujourd'hui. Mais le Seigneur Dieu a pris soin que sa parole révélée soit proclamée sur la face de la terre devant le Dieu Tout-Puissant et de la même manière qu'il l'a fait connaître par la bouche des prophètes sans rien ajouter, sans rien ni retirer. Amen. Beaucoup l'ont écouté et l'ont reçu et sont parvenus à la conviction que Dieu, le Seigneur, a visité son peuple en grâce en ce temps. Je vous le dis, je suis encore prêt à attendre. Même si aujourd'hui, j'ai dit, ici devant, le 11 juin de cette année, 40 ans se sont écoulé depuis que le Seigneur a parlé au frère Branham sur le fleuve Ohio en ces mots. Comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. De même, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Je sais, 40 ans, c'est toute une génération. Plus longtemps, une génération n'est jamais allée plus loin. Mais cela ne m'incitera jamais à faire une spéculation sur le temps. Cela m'incitera tout au plus à être encore plus reconnaissant envers Dieu et à racheter encore plus le temps afin que s'il va au-delà du temps et comment ou quoi, c'est son affaire. Nous voulons racheter le temps et porter sa parole révélée dans nos cœurs, même si nous savons que le temps va vers sa fin. Quand j'ai pensé à ce qui se passe localement ici, au projet, je pense que certains seraient certainement ébranlés et diraient, d'un côté, on entend le retour de Jésus-Christ et de l'autre, on a encore des plans pour réaliser quelque chose. Frère Ball s'est assis ici et il m'a dit, vous n'aurez pas fini que le Seigneur soit revenu. Et Frère Scheffler était assis de l'autre côté et a dit, qu'est-ce que nous avons à perdre? C'était bien ainsi. Et je me suis vraiment réjoui de ces deux vieilles disputes, qu'ils aient parlé avec sagesse. Tous les deux ont parlé avec une pleine sagesse. Et cela m'a tellement réjoui. Qu'en est-il? Nous ferons tout ce que Dieu mettra dans nos cœurs et ce pourquoi il accorde la grâce. Nous nous réjouirons de tout cœur et de toute notre âme. Nous avons écouté Frère Branham a souvent fait la remarque qu'il y en a tellement qui doivent se tenir debout car il n'y a pas de place. Avez-vous entendu cela? Et puis un frère a dit, construisez cette place plus grande. Et faites d'un endroit qui accueillait 300 personnes une place qui pourrait accueillir 600 ou 600 personnes. Et au même moment, il dit que la venue du Seigneur est à la porte. Frères et sœurs, si nous considérons nos modèles, ils ont tous été sobres jusqu'au dernier jour et ont agi comme si le monde continuait à exister. Mais ils étaient dans l'attente du retour de Jésus-Christ dans leur cœur à tout moment. Et nous ferons la même chose. Peu importe ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas sur la terre, une chose est sûre, le retour de Jésus-Christ demeure devant nos yeux. Et nous savons que nous n'emporterons rien, pas la salle, ni les instruments avec lesquels elle a été construite, rien. Les deux resteront. Ce qui est important, c'est que nous soyons pris. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Tout le reste peut rester ici. Quelle que soit la volonté de Dieu, nous ferons tout à la louange et à la gloire de son Saint-Nom. Tout pour aujourd'hui. Quoi qu'il y ait à faire, nous le ferons tous avec une telle endurance que la sueur coulera de notre front. Mais nous le ferons dans l'endurance de l'esprit, comme il est agréable au Seigneur. Loué soit son nom, qu'il puisse nous garder cette leçon devant nos yeux. Que nous ne fassions pas seulement quelque chose, mais que nous fassions ce qui lui est agréable à la louange et à la gloire de son nom. Amen. Nous nous levons pour la prière. Père céleste, nous te remercions de tout cœur, car aujourd'hui aussi, tu es présent par ta parole, par ton esprit. Tu as parlé à nos cœurs, fidèle Sauveur. Quand tu marchas sur la terre, tu as porté les prières et les supplications devant celui qui écoute. Combien plus devons-nous aussi tout lui apporter? Amen. Fidèle Seigneur, dans ta position de fils, Tu as été perfectionné, amen, par l'obéissance. Mon Dieu dans le ciel, qu'en est-il de nous si nous ne sommes pas obéissants? Comment atteindrons-nous la perfection? Et nous parlons de la perfection de l'Église. Fidèle Seigneur, par l'obéissance, cela arrivera. En obéissant à la parole révélée par Dieu et à la volonté de Dieu en ce temps, nous te louons. L'arche de l'Alliance est ouverte dans le ciel et ta parole est révélée sur la terre. Alléluia. Gloire et honneur à ton merveilleux nom. Personne n'a besoin d'aller chercher chez les Philistins quelque chose. L'arche est au milieu de l'assemblée du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à ton merveilleux nom. Ici, il n'y a personne qui ne soit pas autorisé. Tous sont autorisés à avoir part à la révélation du Dieu Tout-Puissant ces derniers jours. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Oui, nous te prions. Tu as fait de grandes choses parmi nous. Nous glorifions la puissance de ton sang, la puissance de ta parole, la puissance de ton Saint-Esprit. Continue à agir puissamment. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen.